Merveilleux, qu'est-ce qui est le plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au mardi 23 juillet 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Vous comprenez que c'est l'heure à laquelle l'émission Club de la Presse démarre. Nous sommes au deuxième numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue surtout au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Ited à TV est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir YouTube et Facebook, et aussi alors nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes, Adama Dronou, bonjour.
Merci de m'avoir invité. Bonjour aux auditeurs et aux auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Ça va, on rend grâce.
Dieu merci.
Ce n'est pas la grande forme, mais ça va.
Ce n'est pas la grande forme, mais Dieu merci. Eric Parkou, Joe Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers invités, bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de Canal FM.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Ah oui, après avoir fait pratiquement plus de 450 km hier, je pense que là, ça va.
Ça n'a pas été fatigant, le voyage?
Oui, bien sûr, mais bon, il le fallait.
D'accord, il le fallait. Voilà, allez le grand, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour auditrice, auditeur de la belle radio Canal FM. Bonjour chers invités, chers confrères en studio. Vous savez que moi, là, depuis la semaine passée, vous le savez, je ne me portais pas du tout bien. Mais Dieu merci, ça va. Je crois que le dimanche, le bon Dieu m'a fait beaucoup grâce.
Voilà.
Davantage, et cette semaine, je rends grâce.
Et Eric demande si tu étais à l'église, peut-être comme tu parlais de la grâce de Dieu.
Non, quoi qu'il arrive, tous les jours que le bon Dieu fait, que nous sommes sur les deux pieds, il faut le rendre gloire.
Tout à fait.
Je suis habitué, un habitué à le faire.
D'accord, vous êtes un habitué de la reconnaissance à Dieu.
À Dieu, tout à fait.
Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu surtout à notre invitation, puisque vous le savez très bien, le débat, ça se passe ici, avec l'émission Club de la Presse sur l'actualité, bien sûr, ou les sujets, les grands sujets alors de l'actualité, et des sujets alors qui dominent l'actualité. Nous en parlons dans le Club de la Presse. Et vous qui êtes aussi à la maison, vous pouvez aussi participer à cette émission. C'est à partir de midi. Nous vous donnons la parole alors de participer à cette émission. C'est sur nos deux numéros, 90 86 35 35 et 91 36 63 75. C'est le principe de l'émission. Mais vous savez que nous sommes aujourd'hui mardi. Nous parlons littérature d'abord, culture, littérature. Et c'est avec notre chroniqueur et écrivain, Claude Askebotis. Claude, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça peut aller.
D'accord. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'œuvre littéraire. C'est vrai que sur les bancs d'école, bien sûr, nous avons étudié ce que c'est qu'une œuvre littéraire. Mais aujourd'hui, quand on parle alors de l'œuvre littéraire, quand dit-on qu'un livre est une œuvre littéraire?
Oui, ce qui identifie fortement une œuvre littéraire, c'est l'esthétique. Le sentiment du beau et des merveillements qui s'en dégage lorsqu'on la lit. Hein. Et il y a deux marques essentielles pour identifier cela. Il y a ce qu'on appelle la diction, la façon de dire les choses, et la fiction, ça veut dire l'utilisation de l'imaginaire, comment vous déployez votre imaginaire pour dire. Voilà. Voilà les deux traits, les deux choses qui identifient une œuvre littéraire.
Donc, si on comprend bien, c'est la diction et la fiction.
La diction ou la fiction.
Ou la fiction.
Et ou la fiction.
Ah, d'accord, voilà. D'accord. Ouais. C'est ce qui caractérise même d'ailleurs une œuvre littéraire. Bien alors, quand on parle de la diction, qu'est-ce que c'est?
La diction, c'est, comme vous le dites, vous le voyez, il y a le mot dire. Hein. Il y a deux choses. Il y a le style, les ornements, les jeux. Enfin, je peux résumer, c'est les jeux de mots. Les jeux de mots qu'on observe dans le style. Hein. Et je peux vous donner un exemple, si vous voulez.
Oui, rapidement.
L'exemple le plus expressif. Alors, voilà quelqu'un qui décrit un quartier où il y a trop de maisons. Voilà ce qu'il dit, par exemple. Je vous lis ça, il dit... Sur des kilomètres, des maisons, point. Pareil, aligné, blanche, point. Encore des maisons, point. Maison, point.
Et il y a tellement de maisons.
Voilà, il n'a pas besoin de dire il y a plusieurs maisons.
Voilà.
Et il l'exprime. Et cette façon de captiver, c'est ce qu'on appelle la diction. Et souvent, nous parlons de figure de style, de ceci, cela. C'est ça la diction.
D'accord. Alors, Claude, lorsque vous faites alors de la fiction, l'identité alors d'une œuvre littéraire, est-ce à dire que le genre essai n'est pas une œuvre littéraire?
Puisqu'on peut trouver aussi dans l'essai qu'il y a une argumentation, la diction. Si vous prenez par exemple l'œuvre de Césaire.
Mais c'est
discours sur le colonialisme, c'est une argumentation. Hein? Mais en soi, lorsque l'essai n'est pas trop spécialisé, par exemple, quelqu'un qui écrit une argumentation pour parler aux agriculteurs, bon, ça, c'est pas utile. Mais lorsqu'il parle de la faim, de l'alimentation au grand public, par exemple, ça peut être une œuvre littéraire. Hein, sa façon de dire, d'articuler les idées. Hein, d'articuler les idées. Et puisque j'ai oublié de le dire, peut-être, dans la diction, il y a aussi la structure. La façon de structurer vos idées. Hein, la façon originale ou classique de les structurer, ça fait partie de la diction. Il y en a qui ont cette force-là de structurer les idées. Et ça, c'est la diction aussi.
Oui, Claude, il y a aussi de nombreuses œuvres littéraires qui parlent de la réalité. Parce que vous avez signifié tout de suite que la fiction aussi fait partie également, ou peut être l'identité même d'ailleurs d'une œuvre littéraire. Et ces œuvres alors qui parlent plus alors de la réalité, est-ce que ces œuvres-là ne sont pas alors une œuvre littéraire?
Non, en réalité, ça pose un grand problème philosophique. Que je vais rapidement ramasser. Et il y a une différence entre la réalité objective et la réalité de l'art. C'est deux choses différentes. Hein. Et un écrivain, il utilise ce qu'on appelle la stylisation. C'est que il doit sélectionner pour en son histoire fluide. Il doit ordonner autrement que la réalité. Il ne peut pas rendre la réalité brute. Et cette façon de faire, hein, qui demande un certain talent, et ça, ça fait qu'il y a décalage entre la réalité artistique et la réalité objective. C'est obligatoire. Il y a aussi ce qu'on appelle le vraisemblable. Hein. L'écrivain ne cherche pas à décrire ce qui s'est passé, mais ce qui peut se passer. Et souvent, et l'écrivain donne l'illusion de la réalité. Je vous donne un exemple simple. Vous prenez l'œuvre de Rita Menda, il y a dedans un général qu'on appelle Saraka. Si vous lisez l'œuvre, vous avez l'impression d'être Togo. On parle même d'animation politique, tout ça. Mais ces animations politiques et ce Saraka-là n'existent que dans cette œuvre-là. Ce n'est pas, vous ne le trouverez pas au Togo, ça n'existe pas. Parce que la façon dont Menda a combiné ça, ça n'appartient qu'à elle. Et c'est ça l'œuvre littéraire. Est-ce que vous suivez? Donc la littérature donne l'illusion de la réalité et non au lieu de reproduire la réalité, voilà.
Mais des fois, on a aussi des autobiographies et avec ces autobiographies, finalement, ça parle plus de la réalité de celui qui écrit.
Oui, mais c'est ça. L'autobiographie, vous ne pouvez pas tout raconter de vous. Et il y a même des choses que vous allez cacher.
Et c'est de la fiction.
Oui, il y a une part de fiction, mais votre façon même de dire, de raconter votre vie, doit être intéressante. Hein? Et cette façon d'entrer déjà dans la littérature, parce qu'il y aura de la fiction.
Et c'est la manière dont vous racontez l'intrigue.
Voilà.
Alors, Claude, et qu'est-ce que c'est qu'une œuvre classique?
Une œuvre classique, c'est une œuvre qui respecte les normes d'écriture. Hein? Bon, d'ailleurs, il y a deux sens. Le mot classique, c'est des œuvres qui appartiennent au XVIIe siècle, par exemple. On dit que c'est classique, en littérature. Mais une œuvre classique, c'est une œuvre qui obéit aux normes, aux bonnes normes de la littérature. Et c'est bien. Et ça s'oppose à l'œuvre originale. Hein, l'œuvre originale. Et voilà, c'est ça, l'œuvre classique.
Et on parle aussi alors de chef-d'œuvre.
Oui, c'est
qu'est-ce que c'est?
Chef-d'œuvre, c'est une œuvre on remarque où l'auteur a eu plus d'inspiration. Hein, c'est mieux fabriqué, c'est plus, il y a plus d'inspiration. Et il ne faut pas confondre ça avec le best-seller. Le best-seller, vous pouvez vendre des millions, de millions. Vous pouvez avoir un chef-d'œuvre, même invendu, mais c'est tellement bien fait. Hein, le sentiment de beauté, d'émerveillement qu'on note dedans est très fort.
Alors, voilà. Ce qui veut dire que tous les ouvrages ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre.
Non, pas du tout. Même si un écrivain, hein, et un écrivain n'écrit pas toujours des chefs-d'œuvre. Vous pouvez écrire 10, il y a un seul qui sera un chef-d'œuvre. Et c'est ça qui va vous marquer dans, c'est ça qui va marquer l'histoire et c'est ça qui va suivre dans l'histoire de la littérature.
Voilà. Claude, merci beaucoup d'être passé dans cette chronique que vous avez toujours le plaisir d'animer avec nous. Merci d'être passé, ça fait plaisir.
C'est à vous, à moi de vous remercier, merci.
Merci beaucoup et bonne journée, Claude. Voilà, déjà après Claude, nous recevons notre invité, c'est Monsieur Rondé Todi Simplice. Monsieur Rondé Todi, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, je dis bonjour aux auditeurs de Canal FM.
Voilà, vous êtes conseiller municipal au niveau alors de la commune du Golfe 4, c'est bien ça?
Oui, je suis conseiller municipal dans la commune du Golfe 4, où je suis président de la commission des affaires sociales.
D'accord, président des affaires sociales, c'est vrai. Nous avons constaté que depuis un temps, il y a la commune qui a commencé par procéder à une campagne foraine par rapport surtout à la naissance, à l'établissement de naissance ou des jugements supplétifs alors aux enfants, et surtout des enfants qui sont dans les classes de... comment l'appelle-t-on, d'examen, c'est-à-dire CM2. Alors finalement, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé d'abord la commune à procéder à cela?
Merci pour cette question. Je crois que nous devons prendre du recul pour parler de projet qui prend en compte dans son premier volet le volet des actes de naissance. Alors, c'est un projet d'ensemble que nous avons intitulé « La réduction de l'exclusion sociale dans la commune du Golfe 4 ». Et ce projet a cinq volets, comporte cinq volets, dont le premier volet est l'établissement des pièces d'identité. Le second volet est l'amélioration du cadre de l'éducation primaire. Le troisième volet est l'ensemble des services de santé de base, offrir les services de santé de base. Et le quatrième volet constitue les services d'hygiène, hygiène et assainissement. Et le cinquième volet prend en compte l'accès à l'eau potable. Et nous sommes rendus compte que tout cet ensemble-là, mis dans un même panier, si ça manque chez une quelconque personne, c'est comme la personne est exclue de l'ensemble de la population. C'est pour cela que nous avons pensé ce projet. Et c'est sa partie identité, l'établissement des pièces d'identité qui est la priorité. Vous savez, il y a plein de nos populations aujourd'hui qui, depuis leur naissance, n'ont pas date de naissance. Quelqu'un qui n'a pas son acte de naissance n'est pas compté parmi la population. Et donc, il est totalement exclu de tous les programmes de société que la commune, l'État peut mettre en place. Et c'est dans ce sens que ce projet a pris en compte cette partie qui constitue l'établissement des pièces de naissance. Alors, cette partie-là consiste à faire des actes de naissance à ceux qui, depuis leur naissance, n'en ont pas eu et de poursuivre pour les conduire à la nationalité, l'acte de nationalité. Alors, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes plus accentués sur les élèves de l'école primaire, et ceux qui sont dans les classes des examens. Mais le projet prend en compte toute la population, de 0 à l'âge adulte. Et vous savez que depuis 2022, l'État a rendu gratuit l'établissement des actes de naissance sur toute l'étendue du territoire national. Alors, c'est par manque d'informations au niveau de nos populations que les gens continuent pas, après avoir donné naissance aux enfants, de ne pas aller à l'état civil pour se faire établir les actes de naissance, puisque c'est déjà gratuit. Et donc, nous travaillons sur cet aspect-là pour sensibiliser les populations dès que l'enfant est né, même si c'est des naissances à la maison, d'aller à l'état civil pour demander les informations pour pouvoir faire établir des actes de naissance à ses enfants.
Monsieur, vous nous avez dit, alors finalement aujourd'hui, quel est le bilan de ce projet où vous établissez même d'ailleurs des pièces d'identité pour des populations au niveau alors du Golfe 4?
Alors, au début du projet, nous avons pensé établir actes de naissance plus nationalité à 2100 personnes dans notre commune.
D'accord.
Alors, nous sommes à la seconde phase de ce projet où nos attentes ont été déjà dépassées. Nous sommes aujourd'hui à 2271 personnes qui ont bénéficié de ce projet, dont 1641 bénéficiaires d'actes de naissance et 632 personnes qui bénéficient de nationalité à ce jour. Il y a beaucoup d'autres dossiers qui sont dans le circuit de la nationalité avec les quelques problèmes de nationalité de parents ascendants, de la nationalité qui va justifier votre nationalité. Il y a d'autres problèmes autour des dossiers, beaucoup de problèmes autour de dossiers de nationalité que nous sommes en train de gérer avec les services de la nationalité. Et aujourd'hui, nous sommes fin prêts pour remettre aux bénéficiaires à 2271 personnes. Dès demain, il y a une cérémonie de remise officielle.
Demain mercredi,
dans l'enceinte de l'EPP à Diomaye. C'est à côté de l'église catholique de Beklikame. Quand vous êtes devant l'Estao, la rue qui fait face, vous rentrez dedans et à droite de l'église, vous avez l'EPP. C'est déjà à 7 heures, nous demandons à nos populations bénéficiaires d'être là avec les copies de naissance des enfants ou de la personne bénéficiaire et d'avoir une copie de carte d'identité du parent qui l'accompagne pour pouvoir constituer un dossier après la remise.
Ah, d'accord. Comment vous procédez d'habitude? C'est-à-dire, par rapport même d'ailleurs à ceux qui n'ont pas l'ordre de naissance et de nationalité, vous procédez comment?
Alors, nous avons commencé par sensibiliser la population. Et après, nous avons demandé au chef quartier, au CDQ, de recenser les personnes dans leur quartier. Ils les recensent, nous centralisons toutes ces listes-là et après nous faisons appel au service de la justice qui se charge de questions de jugement civil sur requête. Alors nous c'est avec eux que nous organisons les audiences foraines pour faire le jugement supplétif à toutes ces personnes-là. Après le jugement supplétif, on transcrit dans les registres d'état civil. Puisqu'ils sont de notre commune, on transcrit dans nos registres et ils ont l'acte de naissance. Après l'acte de naissance, ceux qui ont pu justifier de nationalité d'un parent, on continue le processus pour les conduire jusqu'à la nationalité. C'est pour cela que le nombre de nationalités a un peu diminué par rapport au nombre de naissances. Mais tous ceux qui n'ont pas d'acte de naissance et qui se sont inscrits ont leur acte de naissance aujourd'hui.
Et combien ils paient d'habitude quand ils viennent pour ce processus?
Ah, c'est ça qui est très intéressant. Je vous l'ai déjà dit que pour faire l'acte de naissance aujourd'hui, c'est gratuit.
Oui.
Mais si vous le faites pas dans les 45 jours, vous passez par le circuit de jugement supplétif, vous devez payer de l'argent, autour de 5 000 et plus. Mais pour ce projet, c'est à 0 franc. Et l'acte
c'est
de
gratuit?
Naissance et l'acte de nationalité, tout est à 0 franc. Les frais ont été pris en charge par la commune du Golfe 4.
D'accord. Eric a une question pour vous.
En fait, je voudrais justement lui demander comment il procède pour reconnaître quand même ceux qui viennent chercher leur acte de naissance qui sont togolais. Ben, il a répondu en partie. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cet exercice?
Alors, premièrement, pour les actes de naissance, c'est le manque d'informations. Les gens n'ont pas suffisamment d'informations sur le processus et c'est ça qui fait faire des allers-retours. Mais du moment où beaucoup ont commencé par comprendre, il n'y a plus grande difficulté autour des naissances. Le plus gros des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est par rapport à la question de nationalité où il faut justifier de la nationalité d'un des parents. Alors, au Togo, nous savons que si vous êtes né d'une mère ou d'un père togolais, il suffit d'avoir la nationalité de ce parent-là, vous aurez votre nationalité. Beaucoup l'ont pas. Et il faut aller au-delà. Quand vous lisez dans la loi sur la nationalité, vous allez comprendre qu'on peut justifier avec la nationalité d'un des frères. Et c'est un peu compliqué à ce niveau-là. C'est ces petites complications-là qui rend plus difficile le traitement des dossiers. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, les services de nationalité sont submergés avec les dossiers de nationalité. Donc, il y a aujourd'hui, dans les dossiers que nous avons acheminés au service de nationalité, il y a beaucoup qui sont dans le circuit de contentieux, il y a beaucoup qui sont dans le circuit de complément de pièces d'information et qui attendent.
Et comment vous arrivez à expliquer cela à ceux qui peut-être sont venus pour postuler à cela à votre niveau?
Oui, on leur explique, on leur demande ce qu'on nous a demandé de faire. On leur explique, on leur demande des pièces. Si vous en avez apporté, on va justifier. Et depuis un certain temps, beaucoup de ceux qui sont dans le circuit de contentieux sont directement mis en contact avec les services de nationalité où ça se gère. De toute façon, nous suivons, nous avons des représentants qui régulièrement les accompagnent là-bas pour faire le circuit. Et nous espérons que beaucoup de dossiers vont encore être validé et les populations auront de leur nationalité.
D'accord, si vous avez un mot à l'endroit surtout des populations actuellement, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là? Ils sont très nombreux qui vous écoutent actuellement.
Alors, la première chose, c'est de dire à nos mamans et à nos papas que dès que vous avez un enfant, dès que l'enfant naît, allez à l'état civil de votre quartier, de votre commune pour aller lui établir l'acte de naissance. Parce que c'est la première pièce d'un enfant et c'est ça qui justifie de son existence sur cette terre-là. C'est la première chose. Que c'est gratuit. C'est gratuit sur toute l'étendue du territoire togolais. Donc, n'hésitez pas. La deuxième chose, par rapport au projet que nous sommes en train de mener, nous demandons aux populations de venir demain, très tôt, dans l'enceinte de l'EPP à Diomaye. Déjà à 7h, nous voulons qu'il soit là, parce que nous devons nous organiser, mettre les choses en ordre, vérifier celui-ci est là, celui-ci n'est pas là, est-ce que les pièces de celui-ci est là, tous ceux qui ont été enregistrés au début, venez. C'est vrai qu'entre-temps, dans le processus, nous avons appelé les gens, nous sommes en train de les appeler aujourd'hui pour venir demain, mais même si vous n'êtes pas appelé, mais vous vous êtes enregistré au début, venez quand même. Venez vérifier si votre pièce est sortie.
Tout à fait, d'accord.
Et donc, nous leur demandons d'être à l'heure pour que nous puissions faire ce travail-là nécessaire avant les cérémonies et d'ouverture et de remise officielle.
D'accord. Ali Le Grand a une question pour vous.
Félicitations à la commune Golf 4. Ça, merci. Si je ne me trompe pas. Vraiment, félicitations. Hein, parce que moi, personnellement, en tant que citoyen togolais, pas seulement homme de médias, en tant que citoyen togolais d'abord, c'est ce que j'attends le plus des collectivités décentralisées. Si vraiment toutes les communes pouvaient se mettre vraiment à l'œuvre, sur cet aspect-là, j'estime que ce qu'on constate à l'université, après le bac, justement, le nombre d'enfants qu'on a qui n'arrivent pas à s'inscrire, avec certaines manières, finalement, on les fait inscrire, mais malheureusement, les perdièmes qu'il faut prendre, qui permettent de survivre, ils ne l'ont pas. Et c'est pour cela, je dis un sincère merci et félicitations vraiment à Golf 4. Maintenant, ma question, c'est que justement, par rapport à ceux-là qui ont eu la chance de bénéficier peut-être de cette aide à travers une association par le passé, puisque Golf 4 ne vient que commencer, même si le projet a été mûr pendant longtemps, et qui ont eu la naissance qui se retrouve dans Golf 4. Et bon, vous avez dit dans vos éclaircissements que le processus, une fois lancé, après que les gens obtiennent le jugement supplétif, quand ils arrivent à justifier d'une pièce d'un des parents qui a la nationalité, le processus continue jusqu'à l'obtention de la nationalité. Maintenant, si avec votre projet et que vous arrivez finalement à obtenir le jugement supplétif pour le jeune ou la jeune fille, bon, quel est le sort qui leur sont réservés dès lors que vous avez déjà assez de problèmes par rapport au dossier que vous avez introduit?
Oui, c'est vrai, ce que vous dites est vrai, mais nous avons instruit, surtout le conseil municipal, surtout ce projet que la plupart des conseils, nous avons pris l'habitude d'appeler le projet personnel de monsieur le maire. C'est monsieur Jean-Pierre Fabre qui a souhaité et qui a toujours poussé pour que ce projet soit réalisé depuis le début jusqu'à ce jour. Alors, l'instruction qu'il a donnée dernièrement derrière ce projet, c'est de continuer par accompagner ceux qui n'ont pas pu justifier de nationalité d'un parent. Parce que quand vous lisez dans la loi, c'est un peu compliqué pour le profane. Mais nos professionnels, nos agents d'état civil qui sont suffisamment outillés autour de ces sujets-là, on leur a demandé de toujours accompagner les gens-là, de leur montrer le circuit. Parce que vous savez que d'autres peuvent aller chercher de... comment nous l'appelons?
Et qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce qu'on fait chez nous au village là.
Certificat d'origine.
Certificat d'origine, voilà. Des gens n'ont pas l'information là. Et donc, nos services techniques sont outillés pour les orienter vers chez eux au village, etc. Et le système est aujourd'hui organisé de manière que, même si vous arrivez chez vous au village, chez le chef du village, pour le certificat d'origine, dès que le processus est déclenché là-bas, votre dossier est acheminé depuis le chef dans le circuit de nationalité. Vous reviendrez chercher la nationalité chez le chef du village. Et donc, il faut donner ces informations à la population pour qu'ils puissent aller vite et entrer en possession de ces pièces qui justifient de leur existence sur cette terre.
D'accord. Monsieur Ondetodi Simplice, merci d'être passé alors dans cette émission puisque nous sommes à la fin de cet entretien.
Merci beaucoup et nous disons... Bonne émission.
Merci beaucoup.
Et bonne journée aussi.
Merci beaucoup et bonne journée aussi à vous. Et pour votre, aussi merci pour votre intervention hein, par rapport surtout à ce projet. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et chers confrères, une fois encore, bonjour. Et Eric, nous allons nous intéresser à la culture, hein, puisque nous sommes au mardi et la culture, ça nous intéresse bien. Et vous écrivez hein, ce matin, concours, et qui sera la reine 2024 à l'heure des sciences et technologies du Togo. Et là, ça nous intéresse. Est-ce que vous avez déjà la personne qui sera vraiment la reine de 2024 à l'heure des sciences et technologies?
Non, pas encore. Du moment où les inscriptions viennent d'être ouvertes pour toutes ces jeunes filles-là qui ont eu leur BPC et, ou leur probatoire avec des moyennes intéressantes. Je crois que c'est l'objectif de ce projet-là pour avoir de la qualité suffisante pour ces filles-là qui s'intéressent aussi aux matières scientifiques. Et donc, on a souvent l'habitude de dire que c'est les hommes qui occupent les places intéressantes pour tout ce qui est science et technologie. Mais aujourd'hui, avec ce projet-là, je pense que la Fondation Assal est en train de pousser les jeunes filles à s'intéresser à ces matières scientifiques. Et je crois que pour ce qui concerne le probatoire et le baccalauréat cette année, et pratiquement toutes ces filles qui ont eu le soutien de la Fondation Assal ont encore remporté de bons résultats aux mains. Et je crois que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Fondation Assal vient de lancer le nouveau processus, les nouvelles inscriptions depuis le 22, c'est-à-dire hier, et jusqu'au 15 ou au 25 au août. Et donc, toutes ces filles qui sont intéressées peuvent alors s'inscrire. Il y a un site internet qui est dédié à cela, et j'avoue que les prix sont intéressants. Mm-hmm. Vous vous rappelez, la reine, l'année dernière, a eu une bagatelle somme de 5 millions de francs, CFA. Ce n'est pas rien, mais cet argent n'est pas directement remis à la lauréate, mais plutôt à ses parents, mis sur compte pour l'aider dans son processus, dans son cursus scolaire. Et je crois que c'est une très bonne chose. Ça va aider les jeunes filles à aller de l'avant dans leur cursus scolaire. Et donc, je le répète, les inscriptions sont ouvertes. Il faut que les filles s'inscrivent. Et là, tel que ça se fait avec la Fondation Assal de Madame Abira Bonfaux, vous allez sur le site, mais il y a un quota par région. Et donc, aucune région n'est délaissée, aucune préfecture non plus, mais il faut être parmi les meilleurs pour pouvoir participer à ce concours. Et vous vous rappelez, l'année dernière, c'était à l'hôtel du 2 février, il y avait foule. Je crois que de plus en plus, avec la troisième édition, les gens s'intéressent à ce concours qui permet quand même de donner encore plus de porter à la jeune fille togolaise qui étudie.
Alors, Adam, finalement, quand on prend aujourd'hui ce concours-là, ça veut dire tout simplement que les filles sont plus appelées à s'investir dans les sciences et aussi la technologie.
Oui, je pense que ce sont ces genres d'initiatives qu'il faut encourager dans la mesure où, vous savez, la plupart, nuit été actuellement, la plupart du temps, on a souvent l'habitude de dire que les filles ne sont pas trop attirées par les matières scientifiques, sinon les départements scientifiques, lorsqu'ils obtiennent donc leur baccalauréat, et c'est une évidence. Et je pense que, à part les initiatives et projets du gouvernement qui encouragent notamment les lycées scientifiques qui sont créés, etc., où nous constatons véritablement qu'il y a une bonne proportion de la gente féminine qui est aussi sélectionnée, hein, qui n'est pas loin également de ce projet. C'est un bon projet qu'il faut encourager et qui est initié par l'ancien député Abira Bonfaux. Et Eric le disait tantôt, lorsque nous prenons ce qui est donné, c'est pas mal. Mais moi, j'aurais encore voulu que cela soit mieux, parce que de toute évidence, nous essayons de comparer ce qui est fait en matière d'idées par rapport au Miss Togo que nous connaissons. Lorsque vous comparez ces prix, donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir l'aimabilité d'améliorer encore les gains de ces derniers, parce que la matière intellectuelle ne peut pas être comparée à la matière de la beauté qui est beaucoup plus primée que l'intelligentsia. Donc c'est bon, mais nous l'encourageons à faire davantage pour arriver au moins à l'équité entre les deux.
D'accord. Je sais, c'est vrai que...
Les filles n'ont que 16 ans. Hein.
Non.
Mais ce qu'on leur donne en réalité, c'est pour les appuyer pour tout le reste de leur cursus.
Non, mais si on leur donne les voitures aussi, ça peut les appuyer.
Comme Adam le dit, c'est tellement fondamental et c'est vraiment à encourager. Et si que les bonnes volontés, vraiment, ceux-là qui ont les moyens, on connaît plein de gens qui ont tellement les moyens, y compris des hommes. Parce que vous voyez, de telles initiatives, c'est les femmes qui sont devant. Je ne dis pas que ce sont les femmes seulement qui financent. On a vu avec cette fondation qui a mobilisé, qui a fait, en tout cas, qui a amené Samuel Eto'o, le Camerounais, la légende du football mondial, qui est arrivé dans la capitale togolaise à l'occasion l'année passée. Donc, pour dire que même au Togo, on a aussi de ces personnes qui sont très riches et qui doivent pouvoir mettre quelque chose vraiment suffisamment dans l'éducation, parce que l'extrémisme violent dont on parle, tout passe par là aussi. Vous savez, quand vous êtes bien formé, quand même, il y a des choses qu'on vous propose de suite, vous ne regardez pas la personne. Et donc, c'est l'occasion vraiment d'appeler à mieux faire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ici, il y a un écrivain, notre frère, ami, vient de quitter l'émission. En Côte d'Ivoire, j'ai oublié le nom, il a refusé un prix de 1 million pour avoir publié un ouvrage. On lui a attribué un truc de 1 million. Et il a refusé parce que la Miss Côte d'Ivoire a reçu à l'époque 10 millions cash. Oui. En plus de plusieurs autres cadeaux
des villas.
Donc, le monsieur, il a parfaitement raison. L'œuvre intellectuelle n'est pas quand même chose facile. Alors que les gens vont exposer n'importe quoi, on parle des bonnes mœurs. Et c'est là où on injecte plus de l'argent. Et on apprend même récemment que dans d'autres domaines, les gens sont prêts à financer des gens d'ailleurs qui sont encore lesbiennes, les gays et tout. Donc vous imaginez un peu que le monde, en réalité, nous contribuons plus à la dépravation des mœurs, au recul de la société, au lieu d'investir dans la jeunesse, dans ces jeunes filles-là, dans la vie de ces jeunes filles-là qui n'ont à peine que 15 et 16 ans.
C'est l'occasion. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, Justin, nous constatons quand même qu'il y a cette promotion, surtout de la science ou des sciences et aussi de la technologie. Hier, on nous a quand même motivés à faire la littérature, mais aujourd'hui, c'est comme si le monde de demain se base plus alors que sur les sciences et la technologie.
Bonjour d'abord aux auditeurs et aux auditrices. Je crois que soutenir la jeune fille dans sa formation, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne chose. Ceux-là qui ou celles-là qui ont pris l'initiative de mettre sur pied un tel projet, il faut véritablement les encourager, les remercier. C'est vrai, hier, c'était la littérature. Parce que la démonstration qui est faite à l'école, quand vous êtes en face d'un professeur de sciences physiques ou de mathématiques, vous avez l'impression que ce qu'il est en train de faire là, vous ne pouvez jamais. Et ça fait que la plupart du temps, les filles désertent. On préfère aller faire la série A, on préfère aller faire la G1, et puis ça s'arrête là.
On parlait même des matières bêtes ou voilà. Des matières noires.
Voilà. Celles-là qui ont le courage embrassent la langue anglaise, et ça s'arrête là. Maintenant, rentrer dans la technologie, étudier les sciences, je pense que c'est un autre élément qu'il faut quand même, ou une autre approche. Qu'il faut véritablement amener la jeune fille à comprendre. Donc, véritablement, on voit que les filles sont tellement excellentes dans ce domaine scientifique plus que les hommes. Parce que la science même a démontré que la gente féminine est très intelligente. Donc, moi, je dis que quand on met tellement les moyens dans ce domaine, donc la fille, la jeune fille, donc c'est l'avenir. C'est le demain, c'est l'éducation.
C'est la maman de la société, en fait.
Voilà. Donc, il faut véritablement soutenir. En soutenant une telle initiative, je pense qu'on doit encore faire plus, comme les uns les autres.
D'accord. Eric, c'est vrai que c'est des matières que nous avons connues comme étant des bêtes noires, surtout pour nous élèves en ces temps. Aujourd'hui, il y a une démystification même d'ailleurs de ces matières, de telle enseigne que les uns les autres puissent embrasser ces matières comme cela se doit. Tout récemment, en Côte d'Ivoire, la Miss Mathématiques a reçu 30 millions de francs CFA. Donc, ce qui veut dire tout simplement que il y a un effort qui est fait pour que les jeunes filles embrassent aussi ces matières.
Oui, c'est très important. Vous savez, nous sommes dans un monde, on le dit toujours, c'est un village planétaire et tout. Et depuis 2015, où les Nations Unies ont institué les ODD, c'est-à-dire les Objectifs de Développement Durable, il est inscrit, effectivement, la poussée des filles, des jeunes, vers des matières scientifiques pour pouvoir accompagner tout ce qui se fait dans le monde de la technologie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin de la technologie dans presque tous les domaines, même en littérature. Vous savez, pour prospérer aujourd'hui dans l'agriculture, vous avez besoin de la technologie. J'ai eu la chance de visiter un parc agricole en Chine. Et vous savez, tout se décide déjà en salle avant d'aller sur le terrain. La quantité d'eau à fournir à un plan, les rayons solaires qui doivent tomber sur ce plan, et tout est calculé. Et là, vous voyez que très rapidement, les choses se développent. Et vous savez, aujourd'hui, la Chine est en train de développer quelque chose qui, personnellement, me fait très mal, parce que le Madagascar est le premier fournisseur de vanille dans le monde. Mais la Chine est en train de chercher à ravir la vedette au Madagascar en produisant excessivement de la vanille.
Et ce n'est pas que dans ce domaine, la Chine.
Non, comme je parlais de l'agriculture.
Tout à fait, oui.
Et donc, je dis aujourd'hui, on a plus besoin des gens dans la technologie. Et je crois que les filles, et dites-vous, je disais, c'est 100% toutes les filles qui ont eu le BPC et depuis deux ans qui ont eu à participer à ce concours-là, elles ont réussi à 100%. Et elles sont au top. Des gens qui ont 18 de moyenne en mathématiques, 18 de moyenne en technologie, voyez-vous. Donc, moi, ce que je voudrais plutôt dire en demandant d'améliorer, de faire plus, c'est peut-être le nombre de filles qu'on peut aider au cours de ce concours-là. Mmh. Au lieu que ce soit seulement 10 ou 20, qu'on aille à 100, 200, et je crois que ça va intéresser beaucoup plus.
D'accord. Oui, Adam, c'est vrai que pour cette initiative alors de Miss Mathématiques, je sais quand même qu'il y avait une compatriote également qui a initié quelque chose comme cela, mais toujours est-il que ça, pour ce qui concerne surtout les encouragements, les partenaires, les sponsors, pour que cela marche, ça peine toujours à marcher.
Tout à fait. Et moi, je pense que tout dépend des initiateurs. Hein. C'est vrai, nous avons l'habitude, comme l'avons dit tantôt, en comparant avec les Miss, etc., qui se passent. Puis c'est la référence, c'est le repère. Et c'est normal. Mais au même moment, ça dépend de celui qui porte le projet. Ça dépend de la manière dont il faut convoquer ou inviter les partenaires à y participer. On sait, il n'y a pas que là, quand il y avait aussi un ancien député également qui avait initié un projet comme ça. Après tout, bon, c'était un projet qui est moins en cours de route, mais je pense que ça, ce qu'il faut dire, c'est que le dynamisme de ceux qui portent ce projet-là est très important de pouvoir donc l'expliquer. Mais on sait aussi que la plupart des partenaires aussi sont pour la plupart aussi réticents. Ce sont les mêmes partenaires. Lorsque vous prenez pratiquement tous les projets convergent vers là. Ils sont aussi des fois essoufflés et n'ont pas les moyens nécessaires pour apporter le soutien qu'il faut à tout bout du champ, à tout le monde, mais également la portée. Puisque quelque part, lorsque vous investissez ou lorsque vous participez à un projet comme ça, c'est votre image également qui est vendue. Est-ce que, partant de là, les canaux sont mobilisés pour permettre à ce partenaire-là qui apporte ses moyens de pouvoir être visible et de dire véritablement, voilà, je participe, je contribue à faire émerger des talents en mathématiques. Donc, je pense que le dynamisme des porteurs de ce projet-là aussi est très important pour amener ce projet-là à être au même diapason que les Miss que nous connaissons, que nous critiquons.
Ali, est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour ce qui est des initiatives intellectuelles, on a quand même, en quelque sorte, alors de la peine à sponsoriser même ces initiatives que plutôt des initiatives alors de folklore?
Oui, bon, tantôt, c'est ce que nous venons de dire. Hein, et les collègues qui m'ont précédé, ils viennent de le dire aussi. C'est-à-dire que le truc, en réalité, on a cette manière de vivre sur l'espace planétaire avec les partenaires en développement qui sont disponibles pour nous aider. Je vais parler des politiques publiques au niveau du sommet même de l'État. Maintenant, de telles initiatives, en tant que particulier, des jeunes associations de jeunes, j'allais dire, c'est l'occasion vraiment de se mettre sur cette portion que d'organiser des choses lors des vacances où on regroupe. Oui, le foot, ça réunit, d'accord. Mais je pense qu'on en fait tellement, alors que sur le côté, comme on le dit, des initiatives pour vraiment valoriser tout ce qui est scientifique, on en voit peu. Et donc, pour dire aussi que, quelque part, peut-être c'est notre culture à nous, en tant qu'Africains togolais, et on ne s'assied pas trop sur ce qui nous amène à réfléchir. Et ce n'est pas moi qui le dis depuis toujours, comme quoi l'Africain ne lit pas trop. Et si bien que ce qui est scientifique, d'esprit et d'esprit, il est difficile de se mettre aussi facilement.
Mais est-ce que là,
peu, justement, est-ce que ce qui est un peu les jeux, est-ce que là, les histoires de beauté,
oui, est-ce que ce, là, ce n'est pas grave alors pour notre construction intellectuelle?
Oui, bien sûr, ça nous concerne tous, vous et moi. Ça dit que c'est des choses, et arrivé un moment, il va falloir vraiment rompre cela. Mais les gouvernants, ils ne peuvent pas tout faire. Ils font quand même un effort. Mais eux aussi doivent pouvoir quand même accentuer cela. C'est l'occasion aussi de sanctionner. Seulement hier soir, il y a un dossier que je suis en train de préparer. Seulement hier soir, je disais par exemple, vous êtes dans votre maison, vous voyez une maison par exemple, supposons que Canal FM, c'est une villa, une maison habitée. Devant la porte, vous voyez des jeunes dames, des femmes ou des filles de joie qui sont là devant votre portail. Il y en a plein à Lomé dans les quartiers comme ça. Moi, j'ai rendu visite à une connaissance hier. On en a parlé abondamment. Ça nous a pris des heures après que j'ai quitté le boulot. Ça nous a pris des heures. Mais les gens sont là. Et quand vous quittez la zone, par exemple, DCPJ, toute la zone là, jusqu'à, je ne sais pas, c'est Golf 2, non? Si je me trompe.
Oui, c'est Golf 2.
Golf 2. Toute la zone là, vous allez voir les jeunes dames là, partout, devant des portes. Des maisons que moi je connais, que je connaissais depuis mon enfance. Je suis passé hier, j'étais étonné. Devant des portes, des maisons habitées, hein. On vous dira même, d'après mes renseignements, il y a des maisons, des gens qui vivent avec ces jeunes dames de joie. Elles sortent, elles sont juste devant la porte. Elles ont leurs pièces à l'intérieur et c'est seulement ce travail qu'elles font. Mais je pense que l'État doit hausser le ton. Historiquement, depuis notre bas âge, on connaît le quartier Décon, parce que ça existe partout, c'est pas seulement le Togo. Mais qu'il y a des endroits spécifiques pour ça. Parce qu'on ne peut pas mélanger, en tout cas on ne peut pas vivre ensemble. Quelle éducation vous pouvez donner à votre jeune garçon? Un enfant curieux doit pouvoir se poser des questions. Si telle dame le fait, aussi belle, pourquoi pas? Moi, je ne peux pas le faire. Parce que l'enfant est appelé à s'interroger. En tout cas, un enfant intelligent qui réfléchit, qui est curieux ou curieuse, doit pouvoir se poser ce genre de questions, quelle que soit l'éducation que vous lui donnez. Dès lors que vous l'envoyez aller acheter un produit quelconque, il voit ces jeunes dames, ses sœurs, positionnées là-bas avec des jeunes messieurs, des messieurs qui viennent les aborder. Quand même, ça doit pouvoir donner des réflexions à l'enfant. C'est-à-dire que ça doit perturber l'éducation de l'enfant. Il faut que les autorités vraiment... enfin, hausse le ton pour pouvoir arrêter les morales.
D'accord, ok. Nous allons nous intéresser à la politique. Hein. Justin, c'est vrai, quand on prend le journal Liberté ce matin, le journal Liberté écrit « Lancement de Freedom Togo, mouvement de la libération nationale. François Bocco, désormais, justement, je cite alors les propos de François Bocco, désormais, la patrie nous appelle à l'union sacrée autour d'un seul objectif, fait partie le tyran. » Trois points de suspension. Et il y a le journal Le Détective qui écrit également sur le sujet « Attenance au Togo, un nouveau mouvement de libération nationale en renfort à l'opposition togolaise ». Alors, et le journal écrit par la suite « Découvrez comment le MLN veut désormais mener le combat contre Fornia Simbé ». Alors, quand on prend ce mouvement qui a été lancé le samedi dernier, il y a Kofi Yamnan, et il y a aussi Jean-Sylvanus Limpio, et il y a aussi l'ancien ministre de l'intérieur, François Bocco, qui ont lancé alors ce mouvement. Alors finalement, vous avez suivi aussi la manière dont ce mouvement a été lancé depuis la diaspora et également les objectifs liés alors à ce mouvement. Finalement, quelle est votre analyse alors sur ce nouveau mouvement qui est mis en place?
Non, je pense que le peuple togolais a enclenché une lutte pour sa libération. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, déjà en 1990 et tout au long de ce parcours, on a vu ce qui s'est passé. Mais la situation peut-être qui a provoqué ou qui a fait dépasser les trois compatriotes au niveau de la diaspora en France à mettre sur pied ce mouvement et la modification de la Constitution. Donc, un coup de force constitutionnel décrié par tous et qu'aujourd'hui, le constat est là et que le tenant du système en place ne voudrait pas revoir copie. Donc à partir de ce moment-là, ceux-là qui ont fui le Togo pour s'exiler dans les autres pays dans des conditions que tout le monde sait, je pense qu'il est également de bon ton qu'ils puissent quand même apporter leur contribution à la lutte qui se mène à l'interne. Et j'en ai pour preuve également que quand vous revisitez l'histoire, les conditions dans lesquelles l'ancien ministre de l'Intérieur, François Akela Essobocco, a quitté le Togo, parce qu'il sentait venir un danger, le massacre, pour permettre à Fornia Simbé de se maintenir au pouvoir, donc il a alerté
mais ça n'a pas plu à ses détracteurs. Donc, sa vie a failli être laissée. Il a fui. Depuis, des transactions ont été menées. Et en 2020, tout portait à croire qu'il allait rentrer. Mais l'interdiction qui lui a été signifiée a fait que depuis lors, il est toujours en France. Pareil également pour Kofi Nyam-Nyam, pareil également pour l'homme d'affaires Jean-Sylvanus Olympio. Donc, il y a autant des Togolais qui sont là dans la diaspora, notamment en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, Canada et peu partout. Mais pour des raisons politiques, ils sont à l'extérieur. À partir de ce moment-là, je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Parce que le Togo, c'est pour tous les Togolais. Ce n'est pas pour un seul clan, une seule famille. Et qui est là, qui ne veut pas céder. Et la dernière, comme je venais de le dire, trouvaille, c'est de modifier la condition pour permettre la force de la CIGB d'externiser. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que tous les Togolais de bon sens ont l'obligation de se mobiliser pour mener ce combat-là.
D'accord. Et Eric, c'est vrai que depuis que cette question à l'ordre de nouvelle constitution a commencé à démarrer, alors on a vu aussi des contestations et finalement, c'est au niveau de la diaspora qu'on crée un mouvement maintenant pour contester contre alors cette nouvelle constitution. Comment vous appréciez cela?
Non, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes sur un terrain politique, à moins qu'on me dise le contraire. Ce n'est pas parce qu'il y a un certain François Bocor ou un certain Jean-Sylvanus Olympio, que personnellement je connais très peu, qu'on va parler d'autre chose. Parce qu'ils ont mis en place un mouvement politique, ils ont très bien dit. Alors, c'est quoi la stratégie aujourd'hui de leur lutte? Ils disent qu'ils veulent faire bouter dehors le régime en place. Alors, dans quelles conditions cela va se faire? Ils demandent à toute l'opposition de se réunir. Et oui, par rapport à tout ce qu'on a vécu dans ce pays, même jusqu'à la dernière minute, il y a encore des scissions. Comment de l'extérieur, ils peuvent mener ce combat-là qui doit être porté à l'intérieur du pays. Vous savez, tout récemment, contre justement la nouvelle constitution, il y a des mouvements qui ont été déclenchés à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il y a des voix qui disaient: mais si quelqu'un doit demander aux gens de sortir, qu'ils viennent mettre leurs enfants aussi devant, parce qu'il peut y avoir des représailles qui ne sont pas du tout du goût de qui que ce soit. Et par conséquent, je dis, quand vous entendez ça et vous voyez ce qui se propose aujourd'hui, je me dis qu'il y aura certainement encore des difficultés. Il faut que une opposition politique commence déjà par faire des propositions concrètes, à mon avis. Vous avez...
Vous estimez qu'il n'y a pas alors de propositions concrètes?
Non.
Jusqu'alors?
Non, je n'en trouve pas. Cette lutte a été commencée depuis 90. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu de façon concrète? Et on continue par dire qu'il y a une dictature, qu'il y a des gens qui ne veulent pas partir et on n'arrive pas à les battre sur le plan politique. Je dis tout simplement qu'il faut commencer par faire des propositions concrètes aux populations. Vous allez demander aux populations de vous suivre. Mais qu'est-ce qu'en retour vous leur donnez? On a vu ces dernières élections-là, comment ça s'est passé. Et finalement, on se demande mais comment le parti au pouvoir pourrait encore gagner des élections si effectivement il y a une opposition qui est véritablement organisée.
D'accord. Adam, déjà pour ce mouvement, quelle est votre analyse alors sur cette initiative?
C'est vrai que je n'ai pas tellement fait les recherches pour étant identifier la motivation de son installation, mais lorsque nous lisons déjà les prémices de ce qui est dit, je me suis posé la question concernant la réelle motivation de l'installation, parce que je venais de le dire à mon frère lorsqu'il a fait le développement.
Donc le palais du Justin.
De Justin. Et vous verrez en réalité que les motivations de la naissance de ce mouvement sont de pouvoir, en tout cas, faire revenir les exilés politiques. Et je rappelle que Kofi Nyam-Nyam n'est pas un exilé politique, hein, de toutes les façons. Il a dit tantôt, mais Kofi Nyana n'est pas interdit sur le territoire togolais. C'est vrai que lorsque
nous prenons notion. Il a bénéficié de beaucoup de choses.
Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, donc il est exclu de ce mouvement. Donc, on ne dira pas que, on ne va pas quand même faire la maga en disant que voilà, ceux qui l'ont mis en place sont tous des exilés politiques. Kofi Nyana n'a jamais été interdit en territoire togolais. Quand cela ne tienne, je me pose la question, parce que ici, lorsque nous prenons. Les alternatives qui permettent en réalité d'évaluer l'adhésion d'un parti politique ou, comme ils le disent, que le pays a été donc peut-être embrigadé par un clan, etc. Et moi, je me dis, les alternatives qui permettent d'évaluer en réalité l'adhésion de la population à un parti politique ou à une, en tout cas, motivation politique sont là. Et nous l'avons vu également avec des élections, etc. On dirait que voilà, il y a eu parodie d'élection. Vous savez, la politique aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, c'est une science. À partir du moment où vous affûtez des armes pour réellement donc, combattre votre adversaire, lui également, et c'est évidemment, c'est une question de terrain. Et lorsque vous n'avez pas les arguments phares pour convaincre la population à adhérer à une opinion donnée, il est très difficile de pouvoir donc battre l'adversaire en place. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et plus ou moins, je reviens à l'indiquer en disant que il faudrait véritablement que ces mouvements, lorsqu'ils se naissent, avaient des motivations assez subjectives, puisque c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, ce qu'on dit aujourd'hui, comparé à ce que je dis aujourd'hui, parce que nous avons des articles qui permettent de pouvoir évaluer l'adhésion, je pense que c'est la nuit et le jour. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'un pays donc, est embrigadé. Au même moment, nous avons vu que ces alternatives, notamment les élections, ont permis de nous démontrer qu'il y a une forte adhésion de la population par rapport à ce parti politique-là. C'est en cela que moi je dis, ce sont des sujets assez subjectifs qui ne nous permettent pas, nous, en tout cas lorsque nous prenons les faits, de pouvoir véritablement donc adhérer ou véritablement dire que c'est un mouvement qui est né pour des objectifs assez concrets de libération, et cette libération-là n'est que subjective.
D'accord. Alors Ali, c'est vrai, quand on prend ces mouvements, ces contestations contre la Nouvelle République ou la Nouvelle Constitution, finalement c'est dans l'ordre normal des choses.
En tout cas, moi j'estime que dans la vie d'un pays, il faut des voies divergentes quand même pour faire pousser, faire évoluer les choses. Et naturellement, quand vous êtes patron même de votre structure, de votre société, et que vous avez des collaborateurs qui ne peuvent pas vous critiquer, qui ne peuvent pas vous critiquer, dans le bon sens, hein, comme vous le comprenez, comme moi, dans le bon sens, objectivement, avec des propositions concrètes, ça veut dire que vous allez tomber. En tout cas, si vous n'allez pas tomber, vous n'aurez pas la chance trop d'avoir des gens qui puissent quand même à un moment donné relever vos insuffisances pour que vous puissiez savoir vos limites. Et en cela, je dis opposition, oui, mais pas opposition telle qu'on le voit depuis vous et moi, parce que vous êtes de ma génération, vous êtes beaucoup jeunes aussi. Et ce n'est pas ça. Et pour le sujet précis, pour ce qui se décide en Occident, excusez-moi, moi je ne vais pas commenter parce que je ne vois pas vraiment sur quoi on se fonde. Moi je vois un truc virtuel, je ne vois rien personnellement, même je fais une analyse sans avoir cherché à fouiller le fond. Je ne vois pas en quoi est-ce que cela puisse bousculer le pouvoir.
Ça ne va rien donner, c'est ce que vous pensez?
Ça ne va rien donner parce qu'on connaît des organisations sur place, sur le terrain, qui sont là, que je dirais dynamiques. Maintenant, il y a ce qui manque, qui fait que ça n'avance pas. Maintenant, c'est quelqu'un qui se retrouve à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Et donc, chacun raconte ce qu'il doit pouvoir raconter. Bon, on verra.
D'accord. Mais moi, je ne suis pas. Je sais, est-ce que vous êtes aussi du même avis? C'est-à-dire que non, mais attends, c'est un mouvement virtuel et que ça ne va rien donner.
Je ne le pense pas. Pour des raisons qui me sont propres. D'abord, je fais observer que lorsqu'on parle des élections au Togo, et qu'on avance des argumentaires comme quoi les élections sont transparentes, je dis c'est faux. Parce que en écoutant même celui qui maîtrise mieux ce régime, François Akela Issoboko, il a même déclaré que l'ERPT n'a jamais gagné les élections à la régulière. À plus forte raison, au temps fort du régime, même au temps d'Yadema, si l'ERPT arrive à avoir les 10%, le reste, ils arrivent à compléter pour faire le hold-up. Ça, il a dit, c'est François Boko qui l'a dit. Sur les dernières élections que nous avons connues le 29 avril, on peut pas me dire que ces élections sont des élections transparentes. On a vu la façon dont les urnes sont bourrées. Et puis l'autre élément qui est aussi fondamental qu'il faut relever, Mais il ne faut pas écarter que le régime du Togo est soutenu par les corps habillés. Et ça, on ne finira jamais de le dire. On se rappelle également de ce qui s'est passé en 2005, au moment où Akila et son François Bokko fuyaient le pays. À la suite, on a vu le carnage. Donc, parler de tous ces éléments-là, moi je dis qu'aujourd'hui, c'est un régime qui est là, qui est requinqué, qui ne veut pas céder dans un premier temps, dont le principe même de la démocratie qui parle de l'alternance politique n'est pas au rendez-vous. À partir de ce moment-là, je pense que toutes les forces possibles de se mobiliser pour, un temps soit peu, apporter des solutions, mais ces forces-là seront les bienvenues. Et sur l'autre manche, on me disait tout à l'heure que M. Niam Niam Kofi n'a jamais été chassé du Togo, mais je vais observer que les Togolais qui sont rentrés, qui à un moment donné ont porté de vue voir leurs critiques sur le régime en place, ont été arrêtés. J'en ai pour preuve Togbi de Kwetou qui a été arrêté et gardé pendant des mois avant d'être libéré. Et il a fui le pays aujourd'hui. Il se retrouve également aux États-Unis. Et comment on appelle Jean-Paul Omolo qui a critiqué le régime, il est arrivé aujourd'hui, il est au Nouf. Donc c'est autant d'éléments qui font dire qu'en réalité, tous ceux-là qui critiquent le régime, qui sont de l'autre côté, ils ne savent pas ce qu'ils leur réservent lorsqu'ils seront de retour au pays. On parle de comme M. Jean-Sylvanus Olympio, c'est un homme d'affaires bien sûr, mais quand vous remontez dans l'histoire de ce qui est arrivé à la famille Olympio dans ce pays, avant que même Jean-Sylvanus Olympio ne signe un accord, mais vous allez comprendre que le régime qui est là aujourd'hui n'a pas la volonté d'ouvrir le débat politique, d'ouvrir le jeu politique et de permettre l'alternance politique. Donc, lorsque l'alternance politique n'est pas au rendez-vous, avec ce que nous avons comme constitution de 5e République, je ne sais pas quoi là, qui fout du bordel, à partir de ce moment-là, moi je dis que tout mouvement qui est organisé aujourd'hui, qui veut venir en appui à ce qui se passe à l'interne, même si aujourd'hui on note qu'au niveau de la classe politique, il y a une division, je pense que quand ils disent que le débat ne va pas seulement se mener au niveau du Togo à l'interne, mais à l'externe, également aller vers les Occidentaux, comme on appelle les chancelleries, les puissances, pour expliquer la situation du Togo. Surtout que le Togo aujourd'hui est le seul pays dans la sous-région ou en Afrique qui n'a pas connu d'alternance depuis 1963. Donc, lorsqu'il y a une famille qui est là, qui régente la vie du pays, je pense que tout Togolais conscient, sérieux quand même, doit mener la réflexion pour apporter des solutions.
D'accord, Adam.
Oui, Justin, je ne sais pas sur quelle base se base mon frère Justin pour dire que Akila Bokko connaît le mieux ce régime. C'est vrai qu'il est participé.
Mais il a été ministre de l'Intérieur. Il a été ministre de l'Intérieur. Il a organisé des élections. C'est lui qui le dit.
Ça ne permet pas de dire c'est lui qui connaît le mieux. Ça ne permet pas de.
C'est lui-même qui dit qu'il connaît mieux le système.
Non, permettez. Je dis, il est parti en 2005. Il y a eu la création d'UNI. UNI a fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est vrai, nous en sommes là. Moi, je me dis aujourd'hui, lorsque nous avons des opinions divergentes dans une démocratie, c'est tout ce qu'on peut donc, en tout cas, proposer pour que nous puissions avoir des gens qui puissent donc critiquer les actions qu'on fait pour les améliorer. Mais au même moment, je fais également observer que, après, il y a eu, même dans les démocraties célébrées, nous avons eu des élections. Même aux États-Unis, vous avez vu ce qui s'est passé dans les démocraties célébrées, des élections sont critiquées. Il appartient à une opposition ou pratiquement à un mouvement qui puisse donc apporter ce qui n'a pas été les maladresses pour corriger du mais ce qui sera. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, on ne peut pas se baser sur ces critères-là pour faire observer qu'en réalité, le pays va mal. Est-ce que ceux qui aujourd'hui sont dans l'Union, là, c'est un certain nombre de cas, nous avons des faits qui permettent en réalité, c'est vrai qu'on peut les critiquer, cela fait partie quand même de l'environnement. Lorsque vous êtes en politique, que vous avez l'adversaire en face, il ne peut que soustraire des éléments qui puissent donc affaiblir en face, mais au même moment, souffrez que celui que vous critiquez également puisse avoir des éléments pour vous opposer.
D'accord, ok. Eric,
oui. Ma question est toute simple. De quelle façon on va faire bouter ce régime dehors? De quelle façon? Si,
c'est-à-dire, vous pensez qu'il n'y aura pas du nouveau?
Si ce n'est pas des élections, ou, a fortiori, si c'est un coup d'État, qu'on le dise, qu'on sache que ce n'est pas un mouvement politique, mais plutôt un mouvement armé. Parce que, je ne sais pas, vous dites qu'il y a un régime qui est là, qui ne veut pas partir, et qui est soutenu par l'armée. Alors, que faites-vous de l'armée pendant que vous créez un mouvement politique? Si tant est que nous reconnaissons qu'il est dit que l'armée est apolitique, alors de quelle manière ça va se faire? C'est pour cette raison, je dis, qu'il faut forcément proposer quelque chose d'autre. Vous savez, ce régime parlementaire, pour moi, je crois que c'est un truc qui va permettre quand même aux Togolais de continuer à discuter entre eux. Vous savez, Prenez les différentes mairies. Quand on a fini les élections municipales, il y a des gens qui ne pouvaient même pas devenir maire s'ils n'ont pas été soutenus par le parti au pouvoir dans leur commune. Ça veut dire qu'en temps, il y a eu des discussions. Et je crois que ce que vous faisiez en vous cachant, mais on vous donne la possibilité de le faire aujourd'hui au vu au sud de tout le monde. Entre deux partis politiques, discuter, je pense que c'est la meilleure des choses. Je crois que si on me dit qu'il y a un mouvement qui est né, qui veut faire partir le régime en place, je crois qu'il n'y a qu'une seule voie. Et la voie là, je crois que ce sont les élections.
D'accord, ok. Chers confrères, c'est vrai que c'est passionnant, mais nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne. Et donc, ils peuvent nous appeler sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Alors oui, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Oui, comment allez-vous?
Ça va, chez vous?
D'accord.
S'il vous plaît, c'est monsieur?
Oh la grâce de Dieu, ça va.
Votre nom, c'est...
Allô? Oui, bonjour. Oui, oui, bonjour, comment allez-vous?
Décidement, et voilà, et il semble qu'il ne nous appelle pas, alors d'ici, c'est plutôt d'ailleurs. Alors, 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oui, c'est le jour.
Basile.
Oui.
Allez-y.
Bon, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Bon, je me préoccupe toujours de comment vos collègues débattent. Et puis j'ajoute aussi qu'il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Les trois hommes qui ont créé ce mouvement, il y a parmi eux l'ex-premier, l'ex-ministre de l'Intérieur, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça.
Il vous a dit. Il vous a dit ça, que le FPT, il ne peut pas dépasser 10% pour les élections. Donc, que les gens soient là-bas pour dire que c'est les élections que le FPT, devenu uni, remporte régulièrement. Et eux seuls, ils savent pourquoi ils le disent. Ils savent. Bon, maintenant, ce que moi, je vais leur poser comme question, tout le bien qu'ils pensent de ce parti, pourquoi est-ce que le peuple n'arrive pas à s'offrir même un seul repas par jour? Merci.
Merci, Basile, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, allô, bonjour. Décidément, il y a justement ce décalage hein, qui fait que notre ami qui nous appelle de l'extérieur n'arrive pas à nous suivre ou à rentrer en ligne. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler.
Allô, ben bonjour, monsieur Yakoubou, je vous appelle de Sokoné.
Oui, monsieur Yakoubou.
Bonjour, monsieur Yakoubou, je vous appelle de Sokoné.
Oui, allez-y.
Je vous appelle de ce côté.
Oui, allez-y, nous vous écoutons. Décidément, il n'a pas de retour. Thomas, s'il n'a pas de retour, on peut se passer alors de lui et avoir un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
Oui, Nyamavo.
Allez-y.
La question de la constitution, là, vous savez, j'avais dit une fois que les citoyens, leur cerveau, ça encore à pas. Mais les politiciens ont le leur. Ce
que le député sénégalais là a dit, ça a d'impact. Vous allez voir que les députés là qui ont réagi à l'Assemblée là-bas, ils ont couvert les chefs d'État, pas les peuples. Parce qu'on dit exactement ce que nous avons vu là-bas avec le représentant des peuples. Les députés sont les représentants des chefs d'État, ils ont réagi négativement. Tout le monde a souligné ça. Alors, si les gens comme Akla et Soboko, et les gens se permettent, si les antennes de dire que ça ne va pas aboutir, ils ne sont pas du côté du peuple. Ils sont du côté de la minorité. Merci.
Monsieur Gabavo, merci pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
C'est Arma.
C'est Arma, oui.
D'accord, allez-y.
Il faut dire que, concernant cette nouvelle, c'est-à-dire ce que les gens de la diaspora envisagent pour, comme ils le disent, buter dehors les autorités sur place, d'abord, il faut voir les personnalités qui composent le groupe. Il y a un ancien maire français, je veux parler de Kofi Nyam Nyam. Je me demande, après avoir fait toute sa carrière en France, bon, il veut prendre sa retraite au Togo, bien c'est maintenant qu'il se reconnaît comme Togolais. C'est un peu triste pour nous les Africains qui, on ne sait même pas. Maintenant, dans cette perspective, comme ils disent qu'on n'arrive pas à faire des élections claires et nettes pour déterminer, pour asseoir l'alternance, mais quelle méthode ils veulent maintenant utiliser pour cette révolution? Merci.
Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
C'est Monsieur Mauto.
Oui, Monsieur Mauto.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue, allez-y.
Moi, je ne comprends pas la pensée de Monsieur Eric Dawson sur la naissance de ce mouvement. S'il peut bien m'expliquer cela.
Non, mais chacun a sa manière, quand même d'analyser. Hein.
Est-ce que
vous voulez comprendre quoi, dites-moi.
Pardon, pour lui, c'est ça que la défense de ce mouvement n'est pas d'importance pour les Togolais, quoi.
Ah, mais c'est sa manière, c'est sa manière d'analyser. Si vous avez aussi votre manière d'analyser, il faut juste nous le dire, c'est de ça qu'il s'agit.
Déjà, question.
Non, je dis, Monsieur Mauto.
Oui.
Je dis, si vous avez votre manière d'analyser, de le dire, dites cela, c'est très important. C'est
il a parlé du coup d'État. Il a parlé du coup d'État. Vous êtes ce mouvement-là.
90, oui. Merci beaucoup, monsieur Mauto, merci beaucoup. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Ici, vous nous appelez, intervenez sur les sujets débattus. Nous voudrons avoir juste votre avis aussi sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô? Allô? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez et réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame Assi.
Je fais un coucou particulier à mon frère là-bas, Ben Babidjo. C'est parce qu'on a 61 ans de problèmes existentiels qu'on se mélange un peu, quoi. On a trop de problèmes. Sinon, hier, je parlais de PND, tout ça là. C'est pour dire que ces grands sommets mirobolants là, c'est ça qui nous appauvrissent. Je voulais venir sur l'appauvrissement par le président qui s'est passé au Sénégal. Et bon, énième mouvement pour la libération, tout ça là. Est-ce qu'il y en a besoin, mes frères là-bas? On a une constitution qui dit un mandat de 5 ans. Vous avez vu les États-Unis, non? C'est des blancs là-bas, c'est pour ça. Non, on a dit, il n'y a pas besoin de tout, de nous fatiguer. Nous autres, on se ruine en téléphone, on n'a rien à faire parce que les gens ont bloqué la République. Vraiment, il n'y a pas besoin. Mais les gens disent que ça ne va pas marcher, tout ça là. C'est parce que, il y a des collabos dedans. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que ce que tu fais, tu fais. Et puis, tu crées un monstre, il te bouffe. C'est écrit dans les livres. Merci.
Merci beaucoup.
Ça marche, c'est bon. C'est bon pour nous tous.
D'accord. Merci beaucoup, madame, ici, pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour. 90 86 35 35. Bonjour.
C'est monsieur Kodjo, je vous appelle de Badou.
Monsieur Kodjo depuis Badou. Vous nous suivez depuis à travers notre radio partenaire Sky FM.
Voilà, la question de vos confrères journalistes. Oui, la question de vos confrères journalistes là, qui parlent de coups d'État ou de tout ce qui tourne autour là. On connaît ceux qui font des coups d'État au Togo. C'est ceux qui sont venus soutenir là-bas qui font des coups d'État, que ce soit constitutionnel ou militaire. Donc, on ne peut pas vous dire que quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur ne maîtrise pas un système. C'est quand même faire la honte de la corporation des journalistes. Et donc, qu'est-ce qu'il pense du débat qui a lieu actuellement au niveau de la CEDEAO?
D'accord. Monsieur Kodjo, merci pour votre intervention. Nous allons recevoir un dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mardi 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour? Allô? Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour. Oui, Richard, allez-y. Décidément, il est parti. Chers confrères, nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce jour. Adam, vous avez écouté les uns les autres aussi se prononcer sur l'actualité. Et c'est le principe de l'émission, bien sûr, et puisque nous donnons aussi la parole à nos compatriotes alors de s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Vous les avez écoutés. Quelle est votre réaction?
Non, bon, je les ai écoutés avec intérêt, bien évidemment. Et comme d'habitude, vous savez, lorsque vous exprimez une opinion, il est très difficile que les gens puissent départir l'analyse d'un sujet, en tout cas de la portée peut-être scientifique ou tenu compte d'un certain nombre de faits. Donc, nous les comprenons également parce que tout le monde n'est pas journaliste, tout le monde n'est pas analyste. Et donc, il va de soi, c'est pour la beauté de l'information. Donc, pour moi, les critiques sont les bienvenues, ça nous permet véritablement d'améliorer et de faire davantage. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pu constater également qu'il n'y a pas eu trop d'écart de langage. Comme nous l'avons l'habitude, ça voudrait dire que quelque chose s'améliore déjà.
D'accord. Eric?
Alors, moi je voudrais rapidement réagir, puisque à chaque fois qu'il y a un débat politique, je suis interpellé. C'est une bonne chose, ça veut dire que les gens me suivent. Mais je voudrais demander... Ceux qui disent que parce que nous disons qu'il y a un mouvement, nous ne connaissons pas forcément les objectifs ou les priorités de ce mouvement et que nous nous demandons de quelle manière cela va aboutir pour permettre quand même d'atteindre les objectifs fixés et qu'on nous considère comme étant du côté des chefs d'État et non du côté des peuples. Et je me demande finalement qui est peuple et qui est chef d'État. Et il faut que les gens posent des questions qui permettent quand même la compréhension des situations. Quand on parle de Kofi et Nyam Nyam, Kofi Nyam Nyam, on ne peut pas dire qu'effectivement il a été maire de Saint-Couli, il a été ministre, secrétaire d'État. Mais Kofi Nyam Nyam, il venait au Togo. Il venait passer de bons séjours au Togo. Je ne sais pas si ceux qui sont en train de me dire aujourd'hui que parce que c'est Kofi Nyam Nyam que le mouvement va prospérer. Le débat n'est pas une question de personne, mais c'est plutôt de voir de façon globale ce que ça peut apporter aujourd'hui et quelles sont les dispositions qui sont prises derrière pour que ça avance. Quand je parlais de coup d'État, on me dit que c'est un mouvement qui est créé pour booster dehors le régime en place. De quelle manière ça va se faire? Puisqu'il n'y a aucune proposition concrète qui est faite jusqu'aujourd'hui. Qu'on me dise que, bon, pas les élections, on va bouter le pouvoir dehors, le régime en place. Mais si ce n'est pas ça, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Et là, on sait que, à part les élections, et on dit qu'il y a l'armée qui soutient le pouvoir, de quelle manière on va alors faire partir le régime en place? C'était une question.
La stratégie à utiliser, oui. D'accord.
Donc, je crois qu'il faut que nous soyons quand même, nous mettons beaucoup d'objectivité dans nos réflexions.
Et que nous dépassionnons le débat.
Oui, oui, quand d'accord. Nous dépassions le débat.
Oui, voilà. Et Justin?
Oui, j'analyse, parce que la question de savoir par quel moyen, par quelle manière ça va s'opérer. Bon, je pense que ceux-là qui sont à la tête de ce mouvement, quand vous suivez le débat le samedi, ces questionnements sont venus dans la danse. Sauf que sur des thématiques pareilles, on ne peut pas donner de réponse. Peut-être ce que les gens veulent attendre. Mais seulement j'analyse par rapport à ces trois personnes. Hier, on nous faisait croire que mais si le peuple togolais ou les gens se sont dans la rue pour manifester, pour demander le départ d'Yadema ou de Fonia Sigbe, bon, que c'est une question de Nord-Sud. C'est ce qui a été avancé hier. Mais à l'analyse de la situation progressivement, moi je me rends compte que le débat pour la tendance politique au Togo n'est pas une question de Nord-Sud. Et j'en ai pour preuve, dans un premier temps, avec ce qui s'est passé avec le lancement du PNP, les mouvements qu'on a connus en 2017-2018, et qu'aujourd'hui, ce mouvement qui est lancé. Donc, au final, dont on parle, on ne le présente plus. Il est de Bassa. Boko, il est Kavier. Bon, Sylvanus, qu'on appelle Jean Sylvanus Olympio, mais il est du Sud. Donc, ça voudrait dire que quand on parle du questionnement même de l'alternance politique au Togo, c'est une affaire qui concerne tous les Togolais. Toutes les ethnies dans toutes les régions sont concernées. Donc, c'est un combat qui doit quand même se mener pour que le Togo soit libéré. Donc, je finis.
Rapidement.
Et en ayant une pensée encore pour Talia Morin, qui a cité lors de la conférence nationale en disant ceci: ils ont la force, ils pourront nous asservir. Mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. Il a été assassiné le 23 juillet 1992. Que son âme repose en paix.
D'accord. Ok. Ali?
Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part d'avoir remercié les intervenants. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, aujourd'hui, j'ai pu comprendre qu'il y a plus de... Le débat a été plus dépassionné. C'est-à-dire, les intervenants n'ont pas été aussi agressifs comme les deux dernières fois ont été passés sur le plateau. Et donc, je voudrais davantage inviter à plus d'objectivité, tout simplement. Ce n'est pas parce que je suis frustré d'une situation que je vais refuser d'entendre aussi la vérité, ou bien d'entendre, de voir ce qui est objectif et ce qui est subjectif. C'est tout ce que je pourrais dire.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, cher confrère, d'être passé dans cette émission. Je rappelle tout simplement que dans les kiosques, ce matin, il y a le journal Le Détective, il y a Pour la Patrie, l'Union, il y a aussi La Liberté, enfin, il y a Journal Liberté, j'allais dire, et il y a le journal L'Audience, dont son directeur de publication est Ali Le Grand. Alors, il y a Vision d'Afrique aussi, dont le directeur de publication est Adam Adornou. Adam, merci d'être passé dans cette émission. Eric, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Justin Anani, ça me fait toujours plaisir de vous avoir aussi autour de la table pour faire le débat dans ce studio. Merci d'être passé. Ali Le Grand, merci. Et merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés aussi, merci à vous. Thomas était d'ATV à assurer la mise en onde de cette émission. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.